Le sermon d'aujourd'hui s'intitule « Les fondations de la liberté ». Nous entendons parler beaucoup de liberté dans ce monde, et presque tous les pays du monde, dans leur hymne national, parlent de leur liberté, qu'il s'agisse de la Russie, de la Chine, des États-Unis, du Canada. Nommez un pays, ils parlent tous de leur liberté. Et bien sûr, les autres nations ne pensent pas que les autres peuples sont libres. Ils ont leur propre définition. Il y a une vérité remarquable dans la Bible. Dans Jean 6, 44, vous la connaissez bien, elle nous dit qu'à moins que Dieu le Père n'ouvre nos esprits, nous ne pouvons pas venir à lui à l'heure actuelle. C'est une vérité remarquable. Il est donc vrai que seule la puissance de Dieu Seule la puissance de Dieu et son Saint-Esprit sont capables de nous amener, vous et moi, à la vérité, si cela fonctionne pour nous. Et seule cette puissance et cet esprit sont capables d'apporter au monde le type de gouvernance et de gouvernement qui aboutira à la paix et à la prospérité. Au fil des ans, de grands esprits ont tenté de nombreuses expériences socio-économiques ont développé de nombreux systèmes culturels différents, et ils croient tous que leur système soulagera le monde de l'injustice et de l'oppression. Et ces expériences sont très nombreuses. Nous avons de nombreuses formes de ce que l'on appelle la démocratie, mais il est intéressant de constater qu'elle varie d'un pays à l'autre. Nous avons de nombreuses formes de socialisme. Il y a deux types de marxisme. Le marxisme léniniste et le marxisme maoïste, et ils étaient différents. Il y a des théories très populistes de nos jours, le populisme américain, il y a les mouvements Black Lives Matter, les mouvements féministes, les mouvements LGBTQ, l'extrémisme environnemental. Tous ces différents modèles sont basés sur un principe appelé la déconstruction sociale. Ils pensent que cela va soulager tous les maux du monde, et ils continuent encore et encore. Chacun de ces systèmes, chacun d'entre eux, néglige ou simplement rejette ou ignore la loi de Dieu. Ils ne peuvent pas résoudre les problèmes de l'humanité et leur perspective est souvent étroite. Elle ne tient pas compte des principes économiques dans de nombreux cas. Elle ne tient certainement pas compte des émotions humaines, qui sont très importantes. Aujourd'hui, les nations occidentales, et en particulier le monde anglo-saxon et certaines nations d'Europe occidentale, font pression sur le monde pour qu'ils adoptent leur forme de démocratie, presque à tout prix, comme une forme de gouvernement qui débarrassera les nations de leurs problèmes. Mais certains dirigeants occidentaux ne prennent même pas en compte ou ne respectent pas les traditions ou les cultures des différentes nations, et ils supposent avec arrogance que si la démocratie fonctionne pour nous, elle fonctionnera pour tout le monde. Ainsi, de nombreuses nations considèrent cela comme de l'intimidation, et c'est le cas. Ensuite, lorsque certains pays adoptent la démocratie et produisent un dirigeant que nous n'aimons pas, nous ne reconnaissons pas le gouvernement ou nous le renversons, et les exemples sont nombreux. L'Ukraine est l'un de ces exemples. Viktor Yanukovych a été élu président de l'Ukraine à la majorité des voix lors d'élections que tout le monde a jugées équitables. Mais en 2012, à l'aide des gouvernements occidentaux, ce gouvernement a été renversé et un autre gouvernement a pris sa place. Tous ces événements ont conduit au désastre que connaît aujourd'hui l'Ukraine. Les nations anglo-saxonnes et certaines nations d'Europe occidentale sont donc perçues par de nombreuses nations d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Sud et même par certains membres de l'Union européenne comme imposant leur volonté à d'autres pays, alors que nous n'avons pas résolu les problèmes chez nous. Et pour cela et pour d'autres actions, ces nations sont de plus en plus détestées. Une haine qui grandit et qui culminera comme l'indique la prophétie biblique, dans la défaite et la captivité des descendants de l'Israël moderne. La vérité est que les hommes ne peuvent parvenir à un gouvernement parfait, même lorsque les plus brillants et les mieux intentionnés d'entre eux tentent d'établir ce qu'ils considèrent comme un gouvernement pour le bien de tous. La répartition de plus en plus inégale des richesses, la pauvreté croissante, l'inflation, la récession, les faillites, la criminalité réapparaîtront toujours, quel que soit le système. Et les meilleurs efforts des dirigeants de l'humanité ne peuvent réussir à construire la prospérité et la paix universelle. Nous avons déjà lu, lors de la fête peut-être, des textes tels que le livre d'Amos. Regardons dans Amos, au chapitre 9. Amos 9 et le verset 13. Il est dit, verset 13, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. » Nous imaginons une époque de paix, de prospérité et de bonheur. Dieu l'a promis. Mais vous voyez, l'homme veut le faire à sa façon. En fait, l'humanité ne se rend pas compte, mais elle veut agir selon les conditions de Satan. L'histoire de l'humanité est telle que les rêves utopiques. Il y avait un homme en Écosse, il y a un certain nombre d'années, qui s'appelait Robert Owen. Certains d'entre vous le connaissent peut-être, dans les années 1800. Il était ce que l'on appelle un socialiste utopique. Il pensait que tout le monde devait partager tout de manière égale. On pouvait créer une utopie, un monde de paix, de prospérité mutuelle, où tout le monde est absolument égal et où tout le monde gagne exactement la même chose. Il a quitté l'Écosse. Il a établi plusieurs colonies utopiques aux États-Unis. La plus célèbre s'appelait New Harmony dans l'Indiana. Eh bien, New Harmony n'a été harmonieuse que pendant 2 ans. Puis des querelles intestines ont éclaté et tout s'est effondré, comme toutes ses autres colonies. Bien sûr, aucune des expériences de l'homme ne peut tenir ses promesses, parce qu'elle ne suit pas la loi de Dieu. La raison de l'échec de l'homme est simplement le refus de reconnaître qu'il y a un moyen d'avoir la paix, un moyen d'avoir le bonheur, un moyen de jouir de la prospérité universelle, mais c'est un moyen que l'homme rejette. Lors de la fête des tabernacles, vous entendrez les raisons pour lesquelles le gouvernement de Dieu réussira, alors que les efforts de l'homme se sont tous soldés par un échec, et il réussit parce qu'il est construit sur l'amour paternel que Dieu le Père a pour vous et pour toute l'humanité. Il est dirigé par un chef qui se préoccupe vraiment des besoins de ceux qu'il gouverne. Il est dirigé par un dirigeant qui investit du temps, de l'énergie et des ressources pour résoudre les sources de litiges et les problèmes. Et surtout, il est fondé sur la loi de Dieu, dont Dieu sait quelle est la seule législation du comportement qui mène à la paix et à la prospérité dans le monde. Et si elle le fait, c'est parce que le Dieu Tout-Puissant soutient sa loi. C'est le point que j'aimerais approfondir dans ce sermon. L'essentiel des lois de Dieu dans les Écritures est consigné dans des endroits tels que le chapitre 20 de l'Exode. Nous les appelons les 10 commandements. Et le Dr Meredith a écrit une brochure que nous publions et qui s'intitule « Les 10 commandements ». Il est très utile de la lire de temps en temps. Je la lirai une fois par an si j'étais vous. Ce serait utile. C'est un rappel. Un très bon rappel. Et lorsque ces lois deviennent partie intégrante de notre pensée et de nos actions, elles changent réellement notre façon de penser et d'aborder les problèmes de la vie quotidienne. Si vous avez du mal à maîtriser votre tempérament, si vous avez du mal à respecter votre femme ou votre mari, si vous ne faites pas du bon travail ou si vous avez d'autres problèmes, Il y en a des myriades que vous pouvez rencontrer. Vous devez vraiment méditer sur ce que Dieu nous demande de faire lorsque nous interagissons avec d'autres personnes. Il y a un livre complet de proverbes. Vous n'avez pas besoin d'un livre de psychologie. Le livre des proverbes est le livre de psychologie de Dieu, ainsi que l'Ecclésiaste. C'est là que se trouvent les conseils, comment s'entendre avec les gens, et c'est parfait, et ça fonctionne. Cela change notre esprit. Nous commençons à voir les choses comme Dieu les voit. Nous commençons à voir un problème et à voir une solution comme Dieu pourrait l'avoir. Si vous regardez le psaume 119, que David a écrit, tout au sujet de la loi, c'est le chapitre le plus long de la Bible, psaume 119, verset 97, nous le chantons comme un cantique, il dit « Combien j'aime ta loi! Elle est tout le jour l'objet de ma méditation! » À la fin de sa vie, David a appris de ses péchés. Il a commis des péchés terribles, mais il s'est repenti avec zèle et il a commencé à suivre les lois de Dieu. Et cela a changé son cœur au point que Dieu a dit « C'est un homme selon mon cœur. » Cela s'est produit parce qu'il a commencé à penser comme Dieu pense. Psaume 119, verset 98. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Et il continue. Et si vous regardez au verset 129, il est écrit, verset 129, « Tes préceptes sont admirables, aussi mon âme les observe. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. » En d'autres termes, concrètement, cela vous rend plus intelligent. Plus intelligent dans votre façon de gérer les choses, de vous comporter avec les gens, de vous comporter au travail. Et c'est ça qui fait que l'on réussit mieux. J'aimerais donc passer en revue certaines de ces lois et certains de ces jugements qui établissent un principe général sur la façon dont nous vivons. Il s'agira aussi de règles que vous, enfants de Dieu, enseignerez et appliquerez au cours du millénium. Vous devez donc connaître ces lois. Il y a beaucoup de lois dans la Bible. Je n'ai pas le temps de les couvrir toutes dans un seul sermon. Mais d'une certaine manière, la fête des tabernacles est l'occasion idéale pour commencer à passer en revue quelques-unes d'entre elles. Il existe d'ailleurs une loi à ce sujet. Dans le chapitre 31 du Deutéronome, Deutéronome 31, versets 10 à 13, nous lisons ici le verset 10, « Moïse leur donna cet ordre. Tous les 7 ans, à l'époque de l'année du relâche, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi, et leurs enfants qui ne la connaîtront pas l'entendront, et ils apprendront à craindre l'Éternel votre Dieu tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession après avoir passé le Jourdain, tous les 7 ans. Si cela était suivi, l'ignorance de la loi ne serait pas une excuse en Israël. Mais comme nous l'avons vu il y a quelques jours, pendant 1000 ans, Israël n'a pas respecté la fête. Pourquoi ont-ils oublié la loi? Elle n'était pas enseignée correctement. Et cela fait environ 7 ans que je n'ai pas parlé de ce sujet. C'est pourquoi j'aimerais en parler à nouveau. Dieu nous dit de revoir régulièrement certains aspects de la loi. Bien sûr, nous devrions le faire. Je dirais que c'est une bonne idée de lire l'ensemble de la loi de Dieu une fois par an. Comme je l'ai dit, l'ensemble de la loi de Dieu est plus que ce que nous pouvons couvrir dans un seul sermon. Mais j'espère que cela vous montrera un peu comment la loi de Dieu traite des questions de comportement et comment la sainte loi, que vous serez appelé, si vous êtes appelé, à apprendre à administrer, rendra le monde meilleur et créera ce monde de paix, de joie et de prospérité dont nous avons une vision lors de la fête. Nous devons apprécier la loi que Jésus mettra en œuvre. Bien sûr, certaines des lois qui s'y trouvent, comme le territoire national, ne peuvent pas être appliquées pour l'instant. Pas de la manière dont la Bible en parle, c'est impossible. Remise de toutes les dettes tous les 7 ans? Vous dites à votre banquier, « Désolé, c'est la 7e année, l'année de relâche, je ne vous dois plus rien. » Il ne sera peut-être pas d'accord. Mais la loi de Dieu sera différente. Il y a des lois qui ont besoin de l'administration de la prêtrise et de l'administration de la nation pour être pleinement appliquées. C'est un fait. Mais l'année prochaine, j'aimerais prendre du temps pour jeter un coup d'œil aux lois économiques que Dieu a mis en place dans la Bible, parce qu'elles sont tout à fait étonnantes. Mais aujourd'hui, considérons que les 10 commandements, comme nous l'avons dit, formulent la charte de base ou les grandes lignes de la loi de Dieu. Les statuts et les jugements montrent comment cette loi est interprétée. Dans diverses situations, la pratique juridique d'aujourd'hui appelle cela la jurisprudence. Les 4 premiers commandements, comme vous le savez, nous enseignent à honorer notre Dieu. Les 6 derniers se concentrent sur les 6 principes globaux de comportement qui garantissent le respect des autres êtres humains et notre besoin de servir les êtres humains en les traitant avec respect, avec gentillesse, avec honnêteté et avec miséricorde. Aujourd'hui, j'aimerais donc me concentrer sur certaines des lois que vous serez appelés à mettre en œuvre au cours du millénium, des statuts qui feront la différence. Dans le temps qui nous reste, j'aimerais en examiner quelques-uns. En particulier, je voudrais que vous remarquiez, quand les lois vous disent de faire ceci ou cela, ou comment couvrir tel ou tel problème, qu'elles ont toutes un élément spirituel, même dans l'Ancien Testament. Il s'agit du développement du caractère, car ces lois, lorsqu'elles sont appliquées, développent le caractère que Jésus-Christ veut voir en nous. J'aimerais commencer par le principe du 9e commandement. Il s'agit de l'honnêteté. C'est très important pour notre Père. C'est un exemple de commandement qui est soutenu par de nombreux statuts et de nombreux jugements. Vous avez lu, ou je pense que vous avez lu, Exode 20, verset 16, « Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. » Cela semble impliquer qu'il ne faut rien dire de faux sur son prochain. Mais c'est bien plus que cela. Un principe fondamental de la loi de Dieu est que l'honnêteté est essentielle si l'on veut avoir la moindre opportunité d'entrer dans le royaume de Dieu. L'honnêteté totale dans une société contribue grandement à en faire une société pacifique, productive et heureuse. Et Dieu exige que nous nous débarrassions de toute malhonnêteté à laquelle nous avons tendance. Apocalypse 21, verset 8, nous dit que tous les menteurs auront leur part dans les temps ardents de feu. C'est du sérieux. Dieu ne tolère pas le mensonge. Il appelle Satan le père du mensonge, parce qu'on ne peut pas lui faire confiance. Examinons quelques exemples de cela. Prenons Exode 23. Exode 23 et le verset 1. Il est dit, « Tu ne répandras point de faux bruits. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. » En d'autres termes, il est interdit de répandre de fausses rumeurs, des histoires qui ne sont pas vraies. D'autres règles interdisent la diffusion de vraies choses, si cela nuit à la réputation d'autrui. C'est ce que l'on appelle le commérage. Tout ce qui porte atteinte à la réputation d'une personne qui s'est peut-être repentie et que vous révélez à d'autres personnes leur péché, bien qu'elles se soient repenties, c'est criminel aux yeux de Dieu. De même, nous ne disons pas de choses dont nous n'avons pas confirmé la véracité. Les mêmes statuts font référence à une perversion de la justice, le plus souvent parce que les gens se font une opinion après n'avoir écouté qu'une seule version de l'histoire. C'est un gros problème. C'est une recette particulièrement dangereuse pour vous humilier, d'écouter les nouvelles et de croire la première chose que vous entendez. Proverbe chapitre 18, Proverbe 18, verset 17, Proverbe 18, verset 17. Une déclaration intéressante de Salomon. Il dit, « Le premier qui parle dans sa cause paraît juste, vient sa partie adverse et on l'examine. » Trop souvent, nous entendons quelque chose et nous le croyons tel quel. Ce n'est que plus tard que nous découvrons, « ce n'est pas tout à fait comme ça. » Dans l'Église de Dieu, nous devons être très, très, très prudents à ce sujet. L'honnêteté était attendue dans tout le processus judiciaire de la nation. Dieu a compris qu'un faux témoin, une personne qui ment et qui n'est pas digne de confiance, devait être éliminé de la société. C'est-à-dire à quel point c'était grave. Vous pouvez lire Deutéronome 19. Nous en prendrons un exemple dans un instant. Mais les gens qui, eh bien... Eh bien, permettez-moi avant tout d'aller à Lévitique 19. Le chapitre 19 du Lévitique. Il n'y a aucune tolérance pour les mensonges ou toute forme de malhonnêteté aux yeux de Dieu. Allez à Lévitique 19, verset 35. Lévitique 19, verset 35. C'est un ordre adressé à Moïse et aux personnes qui seraient nommées comme juges. C'est ce que vous allez faire. Vous allez juger des situations. Lévitique 19, verset 35. Vous ne commettrez point d'iniquité, ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Vous devrez vous assurer que personne ne trompe personne. Verset 36, vous aurez des balances justes, des poids justes, des éphas justes, des hins justes. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. L'honnêteté devait être présente dans tous les aspects de la vie. La pénalité, Deutéronome 19, verset 18, est un exemple. Verset 18 nous dit, « Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. » Tu ôteras le mal du milieu de toi. En d'autres termes, si vous êtes dans un tribunal et qu'il y a un esprit dans le millénium qui supervise le tribunal et que quelqu'un fait une fausse déclaration, vous ne pourrez pas vous en sortir et vous recevrez la peine que l'autre personne aurait dû avoir s'il était coupable. Pouvez-vous imaginer un monde où tout le monde serait absolument honnête tout le temps? On ne peut même pas l'imaginer. Quand on commence à y penser, on ne peut même pas l'imaginer. Aucun commerçant n'essaiera de vous tromper sur quoi que ce soit. Cette loi sera appliquée et cela changera énormément la société autour de vous. Vous pourrez faire confiance à tout le monde, tout le temps. La vérité sera la loi. Frères et sœurs, ça, c'est la liberté. On pourrait faire un sermon entier sur l'impact de cela. Vous savez, quelqu'un pourrait demander s'il y a quelque chose que je devrais savoir à propos de cette maison avant de l'acheter, et la réponse serait « Oui, voici une liste de tout ce qui ne va pas et ce qu'il vous en coûtera pour la réparer. » On ne voit pas cela très souvent aujourd'hui. Un de mes collègues d'Edmonton devait acheter une maison, et heureusement, l'un de nos membres est également inspecteur en bâtiment, Il a donc accepté d'aller vérifier la maison et, à son retour, il a dit aux acheteurs, « Fuyez, c'est un gouffre financier. » Quoi qu'il en soit, durant le millénium, la vérité sera la loi, la justice sera possible, la paix d'esprit en résultera, pas de mensonge, pas de tromperie, pas de publicité mensongère, c'est cela la vraie liberté. En tant que partie intégrante du monde que vous êtes appelé à bâtir, c'est l'un des éléments qui aidera à le construire. Prenez donc garde, frères et sœurs, afin qu'aucun d'entre nous n'ait la tendance parfois de déformer la vérité. C'est une caractéristique qui ne sera pas permise à ceux qui deviendront membres de la famille de Dieu. Un deuxième point, qui est un problème aujourd'hui, c'est le vol. C'est une forme de malhonnêteté, certes, mais c'est un commandement spécifique, tu ne déroberas point. C'est le principe. La Bible contient de nombreuses lois sur le vol. C'est un problème énorme aujourd'hui. Les entrepreneurs perdent des milliards de dollars en objets volés de toutes sortes de manières sur les chantiers. Maisons cambriolées, objets de valeur volés. Vous savez, il existe de nombreuses formes de vol. Maintenant, il y a le vol numérique. Les gens vous volent votre identité. Toutes sortes de choses, dont le vol. Aujourd'hui, la punition pour le vol est incohérente. Parfois, elle est beaucoup trop tolérante. J'ai entendu dire que dans certaines régions de l'ouest des États-Unis, de grands magasins comme Target et Walmart ferment leurs portes en raison du nombre de vols commis. Et selon la loi en vigueur, si le montant du vol est inférieur à 950 $, il n'y a pas lieu d'engager des poursuites judiciaires. C'est considéré comme un délit mineur. Et dans les petits magasins, beaucoup ont fait faillite ou simplement fermé parce qu'ils ne pouvaient pas gérer cela. Est-ce la liberté? Ce n'est pas un pays libre lorsque cela se produit, et cela se produit également dans certaines parties du Canada. Il y a de la tricherie. Parfois à un niveau élevé dans la finance, dans le comportement des entreprises, parfois dans le gouvernement, des gens sont accusés de corruption. Alors, quelle est la loi que vous serez appelé à appliquer et qui changera le monde sur cette question? La politique est dans Exode 20, tu ne déroberas point. Et les statuts et les jugements sont les lignes directrices de la mise en œuvre de cette politique. Exode 22, le verset 1. Voici un élément de jurisprudence qui sert de principe à la manière dont le juge déterminera cela, même au cours du millénium. Exode 22, verset 1. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau, et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Pourquoi cette différence? Le bœuf était l'animal de travail, c'était comme le tracteur. Le mouton n'est là que pour la viande et la laine, ce genre de choses. Le bœuf avait donc plus de valeur et il était plus nécessaire à l'ouvrier pour faire son travail. Il fallait donc restituer 5 bœufs pour un bœuf et 4 moutons pour un. Verset 2, si le voleur est surpris dérobant avec effraction et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de meurtre envers lui. C'est le cas si cela s'est passé pendant la nuit. Mais si le soleil est levé, il sera coupable de meurtre envers lui, et il fera restitution. S'il n'a rien, il sera vendu pour son vol. Verset 4. Si ce qu'il a dérobé, bœuf, âne ou agneau, se trouve encore vivant ou en bon état entre ses mains, il fera une restitution au double. Il y a un principe ici. Si vous volez un animal et que vous l'abattez ou vous le vendiez à quelqu'un d'autre, vous devrez en fournir 5 ou 4 selon la nature de l'animal. Les bœufs sont assez dispendieux. Si vous vous rendez aujourd'hui dans un marché aux enchères et vous essayez d'acheter un taureau de grande valeur, vous verrez ce qu'il en coûte. Vous pourriez avoir à débourser 100 000 $. Maintenant, si on le retrouve dans votre main, le propriétaire récupère le bœuf. De plus, vous devez en donner un autre d'une valeur égale. Cela a un effet dissuasif sur le vol. et si vous ne pouviez pas payer, vous étiez vendu comme esclave sous contrat jusqu'à ce que vous ayez remboursé votre dette. On ne vous mettait pas en prison. Vous restiez productif. Vous n'étiez pas rendu improductif. C'est un autre principe. Toutefois, on peut comprendre pourquoi quelqu'un a volé. Mais les sanctions s'appliquent toujours, même dans le cas où il a volé quelque chose et qu'il ne l'a plus en sa possession. Notez qu'il y avait aussi toute une gamme de sanctions. Proverbe chapitre 6, Proverbe 6, est intéressant parce qu'il semble y avoir une contradiction, mais ce n'est pas le cas. Proverbe 6, verset 30, il est dit « On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. » Nous pouvons comprendre pourquoi il le fait, mais si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. En d'autres termes, ce septuple signifie que, selon les circonstances, le juge avait une marge de manœuvre pour rendre une décision plus ou moins sévère. C'est ce que vous aurez avec la pensée de Dieu qui vous remplit. Vous comprendrez ce que doit être la vraie justice et la peine pourra être appliquée en fonction de la nature du crime. Mais une sanction sera appliquée. À chaque fois, une peine est imposée. Mais, comme je l'ai dit, le voleur n'est pas mis en prison. Il paie, et s'il ne peut pas, il est vendu comme serviteur sous contrat ou comme esclave jusqu'à ce qu'il ait remboursé sa dette, mais il reste productif, il continue à travailler. Ainsi, il y a une dissuasion à voler. En termes modernes, si quelqu'un vole votre voiture et l'a vendue, lorsqu'il se fera prendre, il lui sera demandé de vous donner 4 fois la valeur de votre voiture. S'il s'agit d'un véhicule pour le travail, comme un camion ou un tracteur, il devra vous en donner 5. Ça ne rapporte rien de voler, n'est-ce pas? Dieu comprend le cœur de l'homme. Le gouvernement de Dieu appliquera cette loi. Vous l'appliquerez. Il en résultera peu ou pas de vol. Car c'est trop onéreux de voler. Et l'on est obligé de travailler pour se sortir de la dette si l'on est coupable. En d'autres termes, le message est que le péché a un prix, ça coûte cher. Et sous le gouvernement de Dieu, vous avez 100% de chance de vous faire attraper. Parce qu'un être spirituel saura exactement où vous êtes, ce que vous avez fait, et vous ne pourrez pas vous échapper. Qu'est-ce que cela implique pour nous aujourd'hui? Sommes-nous honnêtes? Volons-nous? Est-ce que nous trichons sur nos impôts? Faisons-nous quelque chose de répréhensible? Ne payons-nous pas nos dîmes? C'est du vol, mais c'est du vol envers Dieu, pas envers l'homme. Avec cette loi en pratique, il n'y aura plus besoin de serrure. Tout le monde laissera délibérément ses clés dans le véhicule. Mais vous n'auriez pas besoin de clé même pour le véhicule, n'est-ce pas? Mais Dieu comprend le cœur de l'homme. Il sait ce qui marche. Est-ce que la punition est dure envers le voleur? Oui, elle l'est. Mais le reste de la société peut vivre en paix. Et c'est pour cela qu'il y aura la paix, l'une des raisons. C'est pourquoi il n'y aura pas de peur dans le millénium. Aujourd'hui, la police enquête à peine sur les vols parce qu'il y en a tellement. Lors de la fête, nous devrions prendre le temps de méditer sur la façon dont le monde sera différent et sur ce qui causera réellement cette différence. Cela en fait partie. Vous n'aurez pas peur de perdre quoi que ce soit. Il y a un autre point, et c'est quelque chose que j'ai déjà mentionné, je pense. On oublie souvent que cela fait partie de la loi, mais cela fait partie de la loi de Dieu. Il s'agit du respect des personnes âgées. Je ne dis pas cela parce que je me suis teint les cheveux en blanc. Je plaisante. L'un des grands problèmes de notre époque, c'est que nous vivons à une époque où l'on ne respecte pas correctement les parents, les grands-parents, ou les personnes âgées en général, et ce dans toute la société. C'est un grand mal aux yeux de Dieu, et cela sape l'une des bases fondamentales de la stabilité dans la société. Nous devons respecter les efforts déployés par le passé en faveur des gens. Le cinquième commandement parle de cela et il ordonne. Ne suggère pas, il ordonne aux gens de respecter et d'honorer leurs parents, même si leurs parents étaient des gens terribles. Nous pouvons discuter de la manière dont nous les honorons s'ils sont horribles, mais nous le faisons. C'est intéressant. Comme l'a dit Paul, c'est le seul commandement qui soit assorti d'une promesse spécifique. Regardez le chapitre 20 de l'Exode, le verset 12. Le 20e chapitre de l'Exode et le verset 12. Vous savez, tout le monde veut vivre un peu plus longtemps, n'est-ce pas? Tout le monde aime vivre longtemps. Mais notez ceci, c'est Dieu qui parle ici, au verset 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Il y a une promesse de Dieu ici. Comme l'a dit si souvent M. Ames, réclamer les promesses de Dieu. Notez que le cinquième commandement est un commandement de Dieu. En réalité, lorsque nous comprenons ce commandement d'honorer nos parents, l'un de nos parents est notre Père Céleste, et nous devons l'honorer et le respecter. Et si nous honorons Dieu et le respectons comme notre Père, si nous faisons cela, cela inclut d'honorer nos parents. Même si nos parents sont morts, nous honorons leur mémoire en agissant et en nous comportant de manière à ne jamais déshonorer leur nom. Et nous construisons la réputation de la famille sur ce nom. C'est en grande partie ce que cela signifie. Et si l'on fait cela, si l'on mène une vie respectable et honorable, on honore ses parents, même s'ils ne sont plus vivants. S'ils sont vivants, nous devons les traiter avec respect, quoi qu'il en soit. Parfois, dans certaines circonstances, je sais qu'il y a eu des situations assez désagréables, mais il faut quand même leur témoigner du respect. Même si on n'a pas beaucoup de temps, selon les circonstances, mais c'est quand même un statut de Dieu. Et Dieu s'attend à que nous le fassions 100% du temps, et Dieu le prend au sérieux. Exode 21, verset 15, il dit, « Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. » C'est lourd de conséquences. Ici, lorsque l'on dit « frapper », cela signifie que l'on frappe avec l'intention de faire du mal. C'est la signification de ce mot dans le lexique hébreu, « frapper avec l'intention de faire du mal, par manque de respect ». Parfois, un petit enfant va venir, ouais, et vous savez, j'ai probablement fait cela à mes parents, seulement quand j'étais tout petit. Mais ce n'est pas le contexte ici. Mais s'il y a vraiment une mauvaise intention de frapper avec l'intention de blesser, il y a une peine de mort. Et par extension, il y a un autre statut. Est-ce que nous enseignons cela à nos enfants? Les aidons-nous, en quelque sorte, dans cette pratique? Si vous voyez quelqu'un vous le faire, dans Lévitique 19, ce sont les principes de Dieu. C'est écrit au verset 32, Lévitique 19, 32. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard, et par extension, la femme. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. C'est actuellement dans la loi de Dieu. Et ce n'est pas une suggestion, c'est une loi. Le Saint-Créateur s'attend de nous que nous le fassions, que la société soit d'accord ou non. Et cela crée du respect pour les gens qui ont fait beaucoup pour construire un meilleur environnement pour nous. Honorer les personnes âgées est un ordre de notre Créateur, et cela sera mis en application dans le millénium. L'enseignons-nous à nos enfants? Suivons-nous cette loi? Quand j'étais petit, on m'a appris à me lever quand un adulte entrait dans la pièce. Et si ma grand-mère était présente et que je ne le faisais pas, je m'en souvenais longtemps. Il y avait des moyens de m'assurer que je m'en souviendrais longtemps. Mais le fait est que c'est une demande de Dieu pour que nous envisagions d'apprécier et de respecter ceux qui nous ont précédés. Lorsque j'étais enfant, à l'école, lorsque le professeur entrait dans la salle, nous devions nous lever. Je ne pense pas que cela se produise souvent de nos jours. La société a changé. Elle n'était pas parfaite, mais il y avait plus de respect dans cette société. Le manque de respect envers les parents se manifeste par des actes qui portent atteinte à la réputation de la famille. Nous ne devons pas faire cela. Il y a aussi une autre série de statuts qui demanderait quelques sermons. Je vais juste les mentionner et faire référence à quelques sections des Écritures. Mais c'est vraiment important parce que celles-ci sont menacées de nos jours. Elles sont extrêmement menacées dans notre pays, qui s'écarte de la loi de Dieu à un rythme effarant. Cela concerne le dessein de Dieu d'honorer le mariage et les relations conjugales. La directive est dans ce commandement, « Tu ne commettras point d'adultère ». C'est très clair. Tout le monde le comprend. À cela s'ajoutent de nombreux statuts et règles sur le mariage. Trop de choses, comme je l'ai dit, pourraient être abordées dans un seul sermon. Mais l'un des grands problèmes dans notre société aujourd'hui est l'immoralité, ou plutôt la moralité, c'est-à-dire les gens qui ne considèrent même pas le bien et le mal. Et je pense que pour la majorité des Canadiens, il n'y a pas vraiment de bien ou de mal en termes de comportement sexuel. Tout est permis. Ils sont tout simplement inconscients de la dévastation sociale qui se produit dans notre pays. Même la confusion quant au sexe d'une personne. Permettez-moi d'être parfaitement clair d'un point de vue biblique. Si vous avez une paire de chromosomes XY, vous êtes un homme. Si vous avez une paire de chromosomes XX, vous êtes une femme. Un point, c'est tout. Et c'est toujours le cas. Même si les gens subissent toutes ces opérations de transition de genre, etc. Tout ce que vous êtes, c'est un chromosome XY mutilé ou un chromosome XX mutilé. C'est toujours un homme ou une femme. Vous ne changez pas de sexe. Un point, c'est tout. C'est une insanité de penser que c'est possible. Et la société a adopté l'insanité presque comme une religion. Le coût social et humain des familles brisées est tout aussi important. Mais le plus important, c'est ce qui se passe dans notre pays, car toute cette folie qui se déroule aujourd'hui réduit le nombre de naissances. Et c'est la plus grande menace économique qui pèse sur notre monde aujourd'hui. La Chine est passée par là. Le Japon et la Corée du Sud ont des taux de natalité terriblement bas, de l'ordre de 1,3 à 1,4 enfants par femme. Il en faut 2,1 pour maintenir une population stable. Leur population s'effondre. L'Ukraine a le taux de natalité le plus bas du monde occidental. Avant la guerre, il était de 1,4. Maintenant, je crois qu'il est descendu à 1,01 ou quelque chose comme cela. Asia Time, qui est probablement la source d'information la plus fiable de la planète, rapporte qu'au moins 400 000 jeunes Ukrainiens ont été tués dans cette guerre. Cela n'aide pas non plus. 12 millions de personnes ont quitté le pays. Cette nation se trouve donc dans une situation où l'on peut se demander si elle pourra se rétablir dans un délai raisonnable. Mais certains de nos écologistes intellectuellement déficients, qui essaient de penser sans le pouvoir de réfléchir, essaient de nous dire « Vous ne devriez pas avoir d'enfants, c'est mauvais pour l'environnement. Il y a trop de gens sur la planète, on doit cesser d'avoir des enfants. Prenez le temps d'y penser. Qui travaillera dans les hôpitaux? Qui s'occupera des magasins? Qui seront les ouvriers qualifiés dont vous aurez besoin? Qui seront les agriculteurs? Et qui aidera dans les diverses industries agricoles? Nous sommes déjà confrontés à une pénurie de main-d'œuvre, et c'est bien pire en Europe. On ne peut pas fonctionner avec une telle société. Je vais vous donner un exemple. C'est un problème de violation de la loi de Dieu, et c'est ce qui arrive quand les gens l'ignorent. Le Forum économique mondial a publié un article sur le sujet l'année dernière. Il dit ceci. Dans les années 1960, c'était il y a 60 ans, En les années 60, il y avait 6 personnes en âge de travailler pour chaque retraité. Ainsi, 6 personnes soutiennent en quelque sorte les régimes de retraite, les aides gouvernementales. En 2022, il y avait 3 travailleurs actifs pour un retraité. C'est la moitié du nombre de personnes soutenant un retraité. En 2035, c'est-à-dire dans 12 ans seulement, il y aura 2 travailleurs actifs pour chaque retraité. C'est insoutenable. Vous savez ce qui va se passer? Ils vont pousser l'assistance médicale à mourir pour résoudre le problème. Ne croyez pas que cela n'arrivera pas. Plusieurs gouvernements provinciaux au Canada ont déjà commandé des études pour démontrer les avantages économiques de l'aide médicale à mourir. C'est le monde dans lequel nous vivons. Il y a une guerre contre le mariage. Il y a surtout une guerre contre le rôle de l'épouse. C'est la cible de Satan. Le souhait de Satan est de rendre toutes les femmes sans enfants. Parce qu'il déteste l'humanité, il veut la détruire. Et c'est ainsi qu'il détruit l'Israël moderne. Les gens qui ont une famille achètent plus de choses, n'est-ce pas? Vous avez des petits-enfants, ils ont besoin de choses plus grandes, des vêtements différents tout le temps. Ils consomment. Ce sont le moteur de l'économie. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et c'est un problème. Dans le chapitre 7 d'Osée, il est question du peuple d'Éphraïm dans l'avenir ou à notre époque. Osée 7, versets 8 et 9, nous lisons « Éphraïm se mêle avec les peuples. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Cela signifie à moitié cuit. Des étrangers consument sa force et ils ne s'en doutent pas. La vieillesse s'empare de lui et il ne s'en doute pas. L'âge moyen augmente. C'est un problème majeur. Mais quand les gens s'éloignent des rôles que Dieu a donnés aux hommes et aux femmes, cela détruit la société. Et c'est ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. De nombreuses prophéties dans la Bible parlent des résultats de ce problème et de la façon dont cela va déchirer la société. Mais le millénium ne verra pas cela. Il est question dans la Bible d'enfants qui courront dans les rues. Les lois de Dieu sont extrêmement claires, frères et sœurs. Les seules relations intimes entre les êtres humains sont celles entre un homme biologique et une femme biologique qui sont légalement mariés l'un à l'autre. C'est tout. Tout le reste est un péché contre Dieu est vraiment dommageable à notre famille humaine. Les personnes qui enfreignent cette règle ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu, à moins qu'elles ne se repentent. Il existe plusieurs statuts à ce sujet. Très franchement, nous devons vraiment faire attention à des choses comme le divorce et le remariage. Il existe des principes bibliques à ce sujet. Ils doivent être respectés, sinon Dieu ne bénira pas cette Église. Et c'est très important. Et nous essaierons de faire respecter la loi biblique. Et vous aussi, pendant 1000 ans, au cours du millénium. Et les résultats sont ceux que vous voyez dans la Bible. Il y a une raison pour laquelle les choses vont mieux. Les gens ne veulent pas de cette raison aujourd'hui. Par exemple, qu'en est-il de l'immoralité? Dieu a des lois intéressantes. Il sait comment parler aux gens. Par exemple, Exode 22. Que se passe-t-il en cas de comportement illicite? Exode 22, versets 16 et 17. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Nombreux sont ceux qui, aujourd'hui, diraient « Quelle loi terrible! » Mais réfléchissez un instant. En vertu de cette loi, si un homme séduit une jeune fille dans le cadre d'une relation inappropriée, il vient de se trouver une femme dont il est financièrement responsable pour le reste de sa vie. De plus, la coutume de la dot de la fiancée avait pour but de s'assurer que l'homme avait les moyens de subvenir aux besoins de sa femme. Le plus souvent, ce prix était quelque peu négociable. 2 chameaux et 4 moutons. Non. 2 chameaux et 5 moutons. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas comment il le faisait. Mais non seulement maintenant, le père de la jeune fille pouvait exiger le prix maximum, il n'y avait pas de négociation, mais il pouvait aussi exiger le prix maximum et refuser de le laisser l'épouser. Et s'il ne pouvait pas payer, il devenait un esclave sous contrat jusqu'à ce qu'il paie. Maintenant, c'est une loi intéressante. Les gens y penseraient à deux fois avant de faire quelque chose d'irréfléchi ou d'immoral. Beaucoup de gens dans notre société seraient contrariés par cette loi aujourd'hui, mais ils feraient mieux de s'y habituer parce que c'est comme ça que ça va se passer. Comme David l'a dit, il s'est émerveillé de la sagesse de la loi de Dieu parce qu'elle change notre façon de penser. La loi est conçue pour encourager le principe suivant, réfléchir avant d'agir. Les principes sont nombreux. Même Deutéronome 22. Nous devons être très prudents, hommes et femmes, lorsque nous commençons à regarder quel type de vêtements nous allons acheter et quels sont les styles d'aujourd'hui. Certains styles sont tout simplement inappropriés pour qui que ce soit. Et pourtant, les gens les achètent. Franchement, je reçois 2 journaux. Chez moi, le Globe and Mail et le National Post. Et le Globe and Mail arrive de temps en temps. Il nous envoie une grosse insertion glacée sur la mode. Je n'aime pas la mode, mais je l'ai quand même montré à ma femme la dernière fois que nous en avons reçu un, et j'ai dit, est-ce que je me trompe? Mais est-ce que c'est laid ou quoi? Il y a des modes qu'ils essaient de vendre et c'est vraiment conçu pour rendre les gens repoussants. Et qui est derrière cela? Ce n'est pas Dieu, c'est le Dieu de ce monde. Soyez très prudents. Prenez position pour le bien. Ne suivez pas tout ce qu'on nous présente. Il y a des principes de moralité, par exemple, Deutéronome 22, verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Aujourd'hui, nous avons des drag queens qui font la lecture aux enfants dans les bibliothèques, dans tout le pays, en violation directe de la loi de Dieu. Cela ne fait que renforcer la confusion sexuelle dans les jeunes esprits, ce qui a de nombreux effets négatifs sur le plan psychologique pour le reste de leur vie. Ce type de comportement ne sera plus un problème parce que la loi de Dieu sera appliquée, et vous l'appliquerez. Ces règles sont nombreuses. De telles choses font une différence dans le monde. Nous critiquons souvent le système juridique. Je sais que le système juridique a ses problèmes, mais nous en avons besoin dans notre société actuelle. Néanmoins, l'injustice semble trop fréquente. Il y a une grande incohérence dans le droit. Je pense que les associations juridiques modernes, le barreau, les procureurs de la couronne et les militants des droits de l'homme, vont d'abord avoir un problème avec la loi que vous allez appliquer en matière de justice. Mais vous serez ses dirigeants. Deutéronome 17. Vous n'aurez pas nécessairement besoin d'une pléiade d'avocats. Deutéronome 17, versets 8 à 13. Verset 8. S'il s'agit d'une affaire difficile à juger pour toi, si quelqu'un vient voir les magistrats locaux, qui seront probablement des lévites physiques, quelqu'un vient les voir avec un cas au sujet duquel ils ne peuvent pas vraiment se décider qui est coupable, qui ne l'est pas ou quelle devrait être la décision. Si une cause relative à un meurtre, à un différend, à une blessure te paraît trop difficile à juger et fournit matière à contestation dans tes portes, tu te lèveras et tu monteras au lieu que l'Éternel ton Dieu choisira. ce sera mis en œuvre au cours du millénium. Et c'est vous qui guiderez ce processus. Verset 9. Tu iras vers les sacrificateurs, les Lévites, et vers celui qui remplira alors les fonctions de juge. Tu les consulteras et ils te feront connaître la sentence. Ainsi, qu'il s'agisse des Lévites physiques, sous la direction des êtres spirituels de Dieu. Verset 10. Tu te conformeras à ce qu'ils te diront dans le lieu que choisira l'Éternel, et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Verset 11. Tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront et à la sentence qu'ils auront prononcée. Tu ne te détourneras de ce qu'ils te diront ni à droite ni à gauche. Verset 12. L'homme qui, par orgueil, n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'Éternel ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Verset 13. Afin que tout le peuple entende et craigne, et qu'il ne se livre plus à l'orgueil. Ce jugement sera parfaitement correct 100% du temps. Pas besoin d'appels interminables qui encombrent les tribunaux, qui créent des factures juridiques énormes, pas de loi absurde, un jugement juste, vous guiderez ces juges. Les gens craindront la loi parce qu'ils craindront de l'enfreindre. Ils respecteront le Seigneur leur Dieu. Et cela apportera la paix et l'ordre et un jugement juste, ainsi que le respect et la crainte de la loi, et les innocents ne seront jamais trouvés coupables, et les coupables ne seront jamais trouvés innocents. Et cela produira la paix, la prospérité, le bon comportement, et un monde beaucoup plus heureux. Les gens ne vont pas manifester, vous savez, ils ne vont pas organiser des émeutes dans les rues parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la voie à suivre. Vous savez, nous aussi, aujourd'hui, nous devrions éviter tout comportement de ce genre. Vous pouvez lire, je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais lisez Romains 13, versets 1 à 5. Voilà comment un vrai chrétien traite les problèmes. Nous avons aussi un point de vue sur ce sujet, comment un chrétien répond au gouvernement. C'est la parole de Jésus-Christ. Et il a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La loi encouragera les gens à réfléchir aux conséquences de leurs actes. Vous pourrez leur faire confiance, vous n'aurez pas peur. C'est pourquoi les prophètes disent que vous pourrez vous coucher sous un figuier et que personne ne vous troublera. Il y a une raison à cela. M. Armstrong avait l'habitude de dire « il y a une cause pour chaque effet ». La sainte loi de Dieu, que Jacques appelle la loi de liberté, fait partie de cette raison. Il y a la responsabilité personnelle. Aujourd'hui, nous avons un problème avec les responsabilités personnelles. Les gens pensent qu'ils ne sont pas responsables de certaines choses, ou s'il y a des choses là-bas que les gens distribuent, j'y ai droit. Je devrais pouvoir l'obtenir sans travailler. C'est un gros problème. Il affaiblit toute notre nation. Certaines personnes pensent qu'elles ont droit à des choses et elles bloquent des autoroutes, organisent des manifestations stupides et causent des pertes financières et des préjudices à d'autres personnes. Et personne ne leur demande de rendre des comptes. Ils pensent que le gouvernement devrait payer pour ceci et pour cela et que les universités devraient être gratuites et que nous ne devrions pas, nous-mêmes, avoir à travailler pour ces choses. Et parfois, cela nous affecte dans l'Église. Nous devons être prudents. Ce n'est pas la voie de Dieu. Comment la loi que vous allez administrer traite-t-elle les pensées erronées? 2 Thessaloniciens 3, verset 10. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Il s'agit de ceux qui sont capables. Si des gens ne sont pas capables de travailler, s'ils sont infirmes, il faut s'occuper d'eux. Dieu y pourvoit. Mais le fermier devait laisser les coins de son champ pour que les pauvres puissent venir glaner. Mais les pauvres devaient sortir et ramasser. Ils devaient faire quelque chose. Nous sommes responsables des choses qui sont sous notre contrôle. Nous avons aussi la responsabilité de faire preuve de miséricorde et de bonté envers les faibles. Et nous ne devrions jamais prendre l'avantage sur qui que ce soit. La Bible contient des déclarations intéressantes sur le fait que Dieu, lui-même, intervient et prend soin d'eux directement. Le chapitre 22 du livre d'Exode, Exode 22, au verset 22 à 24, « Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin, Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Je ne pense pas que les gens réalisent que cela se trouve dans la Bible. Vous voyez quelqu'un qui est dans la pauvreté, un orphelin ou une pauvre veuve, et vous en profitez? Vous le faites à vos risques et périls? C'est le contraire que nous devrions faire. Essayer d'assister, d'aider de toutes les manières possibles et raisonnables. La miséricorde, voyez-vous, est une exigence législative de la loi de Dieu. Ce n'est pas seulement une chose à laquelle nous pensons. Il faut être miséricordieux envers les gens. Si vous ne l'êtes pas, Jésus-Christ a dit que vous serez jugés sans pitié. Exode 23. Exode 23, c'est l'une des lois les plus spirituelles de l'Ancien Testament. Exode 23, versets 4 et 5. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi, ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi, pas votre ami, quelqu'un qui vous méprise, qui vous maltraite peut-être, et vous voyez son animal. Verset 5. Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge, et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. Lorsque cette loi est appliquée, elle supprime la cause de la haine. Elle change les mentalités. Elle rend la haine très difficile pour l'autre. Il commence à se sentir coupable. C'est pourquoi il est dit, « Si ton ennemi te maudit, sois gentil avec lui, etc. » Ainsi, vous versez des charbons ardents sur sa tête. En d'autres termes, vous le faites se sentir coupable et il commence à s'adoucir, changeant vos pensées et les siennes. Il y a beaucoup de lois de ce genre. Dieu nous dit de ne pas nous venger nous-mêmes. Il y a tant d'autres lois dans la Bible que nous n'avons pas le temps d'aborder. Comme je l'ai dit, j'essaierai de faire un sermon dans les prochains mois sur les lois économiques dans la Bible, qui sont fascinantes. Mais il existe de nombreuses lois sur la santé. Il y a de nombreuses lois sur de très nombreux sujets. En conclusion, l'époque que nous sommes venus représenter ici est une période glorieuse de paix et de prospérité et d'accomplissement humain universel pendant un millier d'années. Mais comme M. Armstrong avait l'habitude de le dire si souvent, il y a une cause pour chaque effet. L'écriture que nous avons lue dans le sermon précédent, allons-y très brièvement, le chapitre 7 de Deutéronome, Deutéronome 7, versets 12 à 15, Deutéronome 7, versets 12 à 15, si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Verset 13. Il t'aimera, il te bénira, il te multipliera, il bénira le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, de ton blé, de ton moût, de ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Et cela pourra continuer. Il y a une raison pour cela, qui a été promise à l'ancien Israël. Mais c'est le monde que vous aiderez à créer au cours du millénium, la cause de la beauté, la cause de la joie. Cette cause, c'est une population mondiale qui se soumettra au leadership de Dieu et qui vivra selon la loi en pensée et en acte. Prenons donc le temps, que ce soit d'ici la fin de la fête ou au cours de l'année, de lire la loi de Dieu. Cela fera une différence, et nous pourrons nous réjouir du jour où les paroles inspirées de Dieu à Paul s'accompliront avec le Christ et ses frères et sœurs ressuscités qui guideront le monde. Reportons-nous à Romains 8, verset 21, Il est dit, Romains 8, 21, « Parce que la création, elle aussi, sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » Et cette liberté est définie. Les causes de la liberté sont définies dans votre Bible. J'espère donc que vous pourrez prendre le temps de revoir certaines de ces lois, des lois qui font une énorme différence dans le monde que nous sommes ici pour envisager dès aujourd'hui. Ça fait un plaisir d'être avec vous et je vous souhaite une très bonne fin de fête et un temps agréable ici.